Réplique, le procès Eichmann avec Annette Viviorca et Claude Klein. Le 23 mai 1960, à 4 heures de l'après-midi, le premier ministre d'Israël, David Ben-Gourion, ouvre la séance du Parlement par cette déclaration stupéfiante. Je dois informer la Knesset qu'il y a peu de temps, les services de sécurité israéliens ont découvert l'archicriminel nazi Adolf Eichmann, responsable avec les chefs nazis de ce qu'ils appelaient la solution finale du problème juif. Adolf Eichmann est actuellement détenu en Israël et sera bientôt jugé en vertu de la loi sur le châtiment des nazis et de leurs collaborateurs. Le procès débute à Jérusalem le 11 avril 1961. Il s'achève après 114 audiences le 14 août de la même année. Le 11 décembre, le tribunal énonce son verdict. Eichmann est condamné à mort pour crime contre le peuple juif, crime contre l'humanité et crime de guerre. Ce jugement est confirmé par la cour d'appel le 29 mai 1962. Eichmann est pendu dans la nuit du 31 mai à la prison de Ramleh, dans la banlieue de Tel Aviv. 50 ans ont donc passé depuis ce que Ben-Gourion a appelé le Nuremberg du peuple juif. Pour cet anniversaire, j'ai convié l'historienne Annette Viviorca, qui a écrit naguère un livre sur le procès Eichmann, et le juriste Claude Klein, qui publie ces jours-ci « Le cas Eichmann, vu de Jérusalem ». Et d'abord, l'accusé. Qui était Adolf Eichmann? Quel fut exactement son rôle dans la machine d'extermination hitlérienne, Claude Klein?
Eichmann est né en 1906 en Allemagne, et sa famille s'est installée en 1913 en Autriche. Et c'est là qu'il commencera sa carrière. D'abord en s'inscrivant au parti nazi autrichien, et puis après il passe en Allemagne dès 1933, et assez rapidement il grimpe dans les SS, il devient, et rapidement on le reconnaît comme le spécialiste de la question juive. Il prétend, on n'a jamais pu vérifier vraiment, lire l'hébreu, il déchiffre probablement l'hébreu, il arrive à déchiffrer un journal en yiddish. Et il se présente, même à ce moment-là, comme étant un peu sioniste, puisque ce qu'il veut, c'est que les Juifs émigrent. Et d'ailleurs, c'était la politique nazie en Allemagne, en tout cas, au cours des premières années. Mais toute cette politique va échouer. Et surtout, une fois que la guerre est commencée, 1939, l'émigration n'est plus possible, il n'y a plus où aller. Et donc, à l'émigration succède l'extermination, d'abord la concentration et ensuite l'extermination. Et c'est là que Eichmann va montrer quelles étaient ses capacités. Alors, d'un côté, Eichmann s'est présenté un peu comme étant simplement un chef de gare, n'est-ce pas ? C'est lui qui était assis à son bureau et qui réglait la marche des trains. Mais comme l'a dit le tribunal dans son jugement, en une formule très forte, Eichmann se présente comme une marionnette, mais ce n'est pas une marionnette, c'est lui qui tire les fils. Et si vous voulez, je donnerai simplement en illustration le rôle vraiment d'Eichmann. C'est le suivant, si vous voulez. Vous faites circuler des trains, mais ces trains doivent circuler d'une certaine manière, parce qu'il faut d'abord que la capacité des trains soit exploitée de façon maximale. Donc chaque train a entre 1 et 1500 personnes. Mais il faut que les trains, supposons que les trains se dirigent vers Auschwitz, il n'y a pas qu'Auschwitz, il faut que lorsqu'ils arrivent, il y ait exactement le nombre de Juifs que Auschwitz peut recevoir, entre guillemets, ce jour-là, pour les tuer. Mais s'il y en a trop, ça va faire beaucoup de désordre. S'il n'y en a pas assez, c'est du gâchis. Donc, il y a quelqu'un qui veille à ce que tous les jours arrive exactement, dans la mesure du possible, le nombre de personnes. C'est une industrie. L'extermination est une industrie. Vous amenez des dizaines de milliers de Juifs, qu'est-ce que vous en faites? Vous ne pouvez pas les laisser comme ça. Donc, on les extermine et c'est lui qui règle tout ça. Alors, évidemment, on dira, il l'a dit, il n'a jamais tué personne de ses propres mains, et quand on a voulu l'accuser d'avoir tué un enfant dans la cour de son jardin, il en a été acquitté. Et donc, c'est même plus fort, car le tribunal a voulu dire non. Il n'a pas de sang directement sur les mains, mais c'est l'organisateur du crime.
Annette Vivier-Carr.
Alors, je crois que se pose effectivement le rôle d'Eichmann dans la solution finale. On a entendu David Ben-Gourion annonçant sa capture et le fait qu'il serait jugé à Jérusalem. Et tout au long du procès, le procureur Guidon Hausner fera d'Eichmann l'architecte de la solution finale. Or, il n'a pas été l'architecte de la solution finale, ce sont Hitler et Himmler, mais il a été à une position qui est essentielle et qui fait que certains des personnes qui témoigneront au procès l'ont connu. Dans la première phase que Claude Klein a évoquée, qui est la phase migratoire, entre guillemets, puisque c'est Eichmann qui a réussi à faire partir en un temps record les Juifs de Vienne, et qu'ensuite il a tenté de faire la même chose à Prague et à Berlin. Donc les représentants des communautés juives le connaissent de ces pays, Allemagne, Autriche, Tchécoslovaquie. Et puis dans la dernière phase, qui est un des moments les plus affreux, qui est la déportation des Juifs de Hongrie, là encore, Eichmann est là en personne, et il y a des témoins qui peuvent dire ce qu'a été son rôle. Donc c'est un rôle d'intermédiaire. Ce n'est pas lui qui trace les grandes lignes de la politique, mais c'est lui qui a un rôle clé pour la mettre en œuvre. D'abord, politique migratoire avant la guerre. Ensuite, il se consacre aux gigantesques déplacements de populations, notamment de populations polonaises. C'est un homme de terrain. Hein, on le voit parcourir l'Europe. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis dans son bureau et qui signe des ordres. Et puis, à partir de la conférence de Wannsee, il passe le Rubicon, comme dit l'historien David Cesarani, auteur d'une biographie d'Eichmann. Et à partir de ce moment-là, c'est lui en quelque sorte l'administrateur de la solution finale, celui qui s'occupe de déplacer les Juifs de toute l'Europe vers le lieu de leur mise à mort, de leur assassinat.
Alors vous l'avez dit, Annette Vivier-Carr, il n'était pas l'architecte de la solution finale, il n'était pas non plus un des plus gradés parmi les dignitaires nazis, il faisait ce qu'on lui demandait de faire, il a argué de son obéissance, il a dit « c'était ma vertu, peut-être l'ai-je poussé trop loin, mais j'étais obéissant ». Hannah Arendt a un commentaire très profond, mais sur lequel je vous inviterai à vous interroger. Eichmann se demandait toujours « qui était-il pour juger ?» quand on lui donnait des ordres, et notamment quand on lui a parlé justement de cette entreprise d'extermination. Hannah Arendt commente « Il n'était ni le premier ni le dernier dont la modestie causa la perte ». Phrase très profonde, mais est-elle pertinente? Autrement dit, Eichmann était-il simplement arriviste et zélé? Était-il incapable de s'exprimer autrement que dans la langue du système? Incapable de distinguer le bien et le mal? Incapable de considérer les choses du point de vue de l'autre, incapable de se rendre compte de ce qu'il faisait. Cela, Hannah Arendt l'a appelé, justement, la banalité du mal. Cette expression a été mal comprise, j'essaye de la restituer dans sa signification. S'applique-t-elle, selon vous, à Eichmann ?
Claude Klein. Oui, je crois que c'est une expression qui a eu beaucoup de succès, qui a fait en grande partie le succès du livre, mais je voudrais rappeler aux lecteurs qui voudraient lire le livre d'Arendt qu'elle n'en parle jamais dans le livre. C'est une chose assez extraordinaire.
Ce sont les derniers mots de l'épilogue.
Oui, c'est dans la deuxième édition. Donc voilà, elle lance une expression tout à fait extraordinaire, il faut bien le dire, sur la paternité de laquelle on a un peu discuté, mais elle n'explique jamais ce qu'elle entend. Alors d'abord, je le dis dans mon livre, jamais Hannah Arendt a dit que ce qui s'est passé a été banal. Non, il ne s'agit jamais. Pas de ça.
C'est bien pour ça que
oui, il faut le dire, il faut le dire, parce que je critique moi-même assez Arendt pour reconnaître ce qui est la vérité.
Ce n'est pas du tout un concept absolutoire.
Non, absolument.
En aucune façon.
Cela dit, il y a un certain nombre de choses étonnantes, et c'est pourquoi j'ai un petit sous-chapitre dans lequel je pose une question qui fait sourire les gens. Eichmann était-il antisémite ? D'ailleurs, à la limite, Eichmann prétendait ne pas avoir été antisémite, et Arendt le suivait presque sur ce point. Or, ce n'est pas vrai. Eichmann a été profondément antisémite, et c'est la raison pour laquelle il a mis beaucoup de zèle dans ce qu'il faisait. Il faut faire extrêmement attention à ne pas réduire, comme l'a fait Hannah Arendt, ce personnage un peu falot, un peu quelconque, qui en réalité possédait les dossiers à fond. Je rappelle l'épisode très intéressant, c'est dans le contre-interrogatoire qui a été fantastique, un contre-interrogatoire qui dure une quinzaine de jours, où Hausner le soumet à une critique, il est sur le grill et il se défend bec et ongle, il marque des points. Hannah Arendt ne le relève pas parce qu'elle n'est pas là durant cet épisode, mais il réussit à tenir tête et même à marquer des points, ce qui montre bien que ce n'était pas un personnage falot, même si oui, il maniait un peu la langue bureaucratique du Reich.
Annette Wiegerka.
Je pense que chez Hannah Arendt, on lit obéissance aux ordres et banalité du mal, et que l'ouvrage, le procès Eichmann et l'ouvrage d'Hannah Arendt, qui paraît quand même 2 années après le procès, se font dans la période où deviennent très populaires les fameuses expériences de Milgram. Et où l'obéissance aux ordres devient une sorte de panacée pour expliquer la criminalité dans les régimes, disons, totalitaires. Milgram, ce sont ces expériences où un professeur demande à des étudiants d'envoyer des décharges électriques jusqu'à la mort à des personnes qui sont des acteurs. Et il conclut que, par obéissance aux ordres, on peut tuer. Ce sont des expériences qui, aujourd'hui, sont très fortement critiquées.
La télévision française l'a repris l'an dernier.
Ouais, je sais, ouais. Je dirais simplement, je ferai simplement 2 remarques. La première remarque, c'est que tous ces gens sont des idéologues et que l'idéologie nazie est une idéologie, l'antisémitisme est au cœur de l'idéologie nazie. C'est ce que Saul Friedlander appelle l'antisémitisme rédempteur. Mais aussi que à partir de 1942, on parle d'éradiquer les Juifs avec une équivalence qui est faite constamment. Les Juifs veulent la perte de l'Allemagne, il faut donc tuer les Juifs. La deuxième remarque très rapide, c'est qu'il ne faut pas confondre, quand on analyse un procès, ce que sont réellement ou ce que pensent réellement les accusés et ce qui est leur stratégie de défense. Adolf Eichmann a une stratégie de défense qui est en partie calquée sur la stratégie de défense de Sonny Nuremberg.
Oui, alors justement, d'abord, un mot en effet sur le contresens commis à propos du terme de banalité du mal. Un journal juif épinglé par Peter Novick dans son livre « L'Holocauste dans la vie américaine » avait pris pour titre « Quand une juive souffrant de la haine de soi écrit un feuilleton pro-Eichmann ». Il est clair que le rapport d'Hannah Arendt sur la banalité du mal est tout sauf un feuilleton pro-Eichmann. Autre chose, il me semble qu'elle n'est pas la seule à raisonner dans ces termes du crime fonctionnel. Je pense par exemple à cette phrase du théologien protestant tout à fait génial, suisse Max Picard, « La cruauté nazie émane d'un appareil industriel ou d'un homme devenu tout entier appareil. » Et même Yehuda Bauer, le célèbre historien israélien, écrit « Les Allemands n'avaient nul besoin de haïr les Juifs pour les tuer. On soupçonne, eussent-ils reçu l'ordre de tuer tous les Polonais ou tous les Français, qu'ils l'auraient fait aussi bien. » Et vous avez raison, me semble-t-il, Annette Wiegerka, de remettre en question un tel jugement et de dire, et ça a été, je crois, formulé à l'époque par Michel Borowicz, que c'était sans doute la stratégie de défense d'Adolf Eichmann de se faire passer pour un personnage médiocre et insignifiant. À travers cette insignifiance, il pouvait peut-être obtenir une certaine indulgence du jury ou au moins éviter la peine de mort. Et je voudrais citer pour finir un extrait de la deuxième lettre de Gershom Scholem à Hannah Arendt. La première est très connue, il y a eu cet échange tout à fait extraordinaire. Dans la première, il dit à Hannah Arendt qu'elle manque de Ahavat Israël, d'amour d'Israël, et on connaît aussi la réponse d'Hannah Arendt. Mais il y a eu une deuxième lettre que je ne connaissais pas et que j'ai lue dans l'édition Quarto des Origines du totalitarisme et d'Eichmann à Jérusalem. Je crois qu'Eichmann, dit Gershom Scholem, lorsqu'il se promenait dans son uniforme de SS et qu'il se délectait de voir tout le monde trembler devant lui, n'était pas du tout ce petit monsieur banal auquel, avec ou sans ironie, vous essayez aujourd'hui de nous faire croire. Et il dit « c'est une construction a posteriori ». Et il est vrai qu'il y avait sans doute une forme de fanatisme chez Eichmann, comme on l'a vu en Hongrie notamment, en 1944, quand Himmler, pour des raisons tactiques, pour sauver sa peau, voulait modérer l'extermination, et que lui voulait que ça aille de plus en plus vite. Et il a eu des expressions comme quoi il danserait de joie dans sa tombe en pensant qu'il avait tué 5 millions de juifs. Donc, il est très difficile, je pense en effet, de mettre l'idéologie entre parenthèses quand on parle d'Eichmann. Annette Vivurkin.
Oui, d'autant que l'on dispose des fameux entretiens Sassen, où il livre davantage sa pensée. Et je crois qu'on le voit dans le procès. Il y a une particularité de ce procès, c'est qu'il a été filmé en vidéo par un très grand documentariste américain qui s'appelle Lee Hurwitz, et qu'on a à peu près 250 heures restantes de ce procès. On peut donc, nous, voir aujourd'hui Eichmann. Avec ma collègue Sylvine Depergue, nous avons fait une étude très fouillée de la question de ce filmage et du rôle de la télévision dans la diffusion des débats de Eichmann. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que de temps en temps, Eichmann relève en quelque sorte la tête et qu'il retrouve la jouissance qu'il a eue à exercer du pouvoir sur les autres. Et on le voit aussi dans le film de Ritipane, sur Duk. Ça veut dire que ces hommes qui ont des
Duk,
stratégies...
Le génocidaire de
S21. Oui. Donc ces hommes qui ont une stratégie de défense qui est de se faire passer pour des petits rouages quasi inexistants et disant qu'il y avait plus grand qu'eux, ce qui est vrai, hein, que Sampan est davantage responsable que Duk ou Himmler. Eh bien ces hommes, dès qu'eux-mêmes se rappellent ce qui a été quand même la grande période de leur vie, celle où ils avaient le pouvoir, l'argent, les honneurs, eh bien on retrouve chez eux une image, un fantôme de ce qu'ils ont été et qu'ils regrettent de ne plus être.
Oui, c'est tout à fait exact. Et Eichmann était pris dans sa stratégie entre, d'une part, effectivement, se présenter comme un petit rouage et d'autre part, quand même, de montrer qu'il était quelqu'un. Et il hésite constamment entre les deux éléments. Et souvent, comme Annette vient de le rappeler, il s'oublie et, en quelque sorte, il réagit, il bondit, il tient tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Guido Nausner. Et c'est assez curieux lorsqu'on étudie de très près cette stratégie où il est pris complètement en tenaille entre deux attitudes diamétralement opposées.
Et d'ailleurs, Hannah Arendt souligne aussi son extraordinaire vantardise. C'est un des thèmes de son livre. Mais il y a aussi ce témoignage accablant pour lui de Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, un témoignage qui contredit quand même l'idée de banalité du mal. C'était un homme, dit-il, d'une trentaine d'années, alerte et actif, toujours débordant d'énergie. Il ne connaissait pas de repos. Il était obsédé par la question juive et par l'ordre qu'on lui avait donné d'y apporter une solution définitive. Alors, on ne peut pas penser que ce soit simplement le goût du travail bien fait qui, si vous voulez, inspire une telle obsession chez Eichmann.
Je crois qu'il faut quand même dire qu'il y a aujourd'hui énormément de travaux qui ont été faits sur les appareils nazis. Je pense aux travaux de Christian Ingrao et de beaucoup d'autres. Et que l'on sait aujourd'hui que ces hommes qui ont perpétré la solution finale, ces appareils-là, étaient constitués d'hommes intelligents, d'hommes diplômés, Eichmann était un peu un autodidacte parmi eux, et d'hommes qui étaient intimement convaincus que si l'on ne détruisait pas les Juifs, si on ne les éradiquait pas, ça signifie qu'on les détruit jusqu'à la racine, c'est-à-dire les enfants, ils détruiraient l'Allemagne.
Voilà.
Et si on ne comprend pas cela, ce qu'on ne comprenait pas en 1960, au moment du procès Eichmann, parce que ces études-là n'avaient pas été faites, on ne peut pas comprendre ce qui meut un homme comme Eichmann.
Oui, je vais simplement ajouter à propos de Huss et quelques autres. Huss parle avant d'être exécuté lui-même, n'est-ce pas ? Et ils sont plusieurs à charger Eichmann. Mais l'une des raisons pour lesquelles on charge beaucoup Eichmann en 46-47, c'est qu'on croit qu'il est mort et que c'est extrêmement commode pour les survivants, pour ceux qui sont mis en accusation, de charger quelqu'un dont on croit qu'il est mort. Et ce n'est qu'après qu'il est réapparu. Le premier à vraiment situer Eichmann sera Polyakov dans un grand article en 49 et qui termine en disant ben, « on ne sait pas où il est, on ne sait absolument pas où il est, certains disent qu'il est mort » et donc c'était très commode de le charger.
Alors venons-en maintenant à l'incrimination elle-même. Eichmann a été jugé, donc, puis condamné pour crime contre le peuple juif, crime contre l'humanité et crime de guerre. Que pensait Claude Klein de cette distinction entre crime contre le peuple juif et crime contre l'humanité ? Est-elle philosophiquement et juridiquement pertinente, selon vous ?
Alors, il n'y a pas de doute qu'elle pose problème. Mais la question a été souvent posée, elle est même posée notamment dans la polémique entre Hannah Arendt et Robinson, qui est celui qui a répondu à Hannah Arendt. Je crois que la distinction pourrait être un peu la suivante. N'est-ce pas ? Par exemple, les Allemands ont commis des crimes contre l'humanité terribles contre le peuple polonais. Ils ont essayé, comme on le sait, de détruire toute la classe intellectuelle polonaise. C'est-à-dire, comme on disait au temps de Pol Pot, tous les gens qui avaient des lunettes, n'est-ce pas, les intellectuels, depuis les curés, les instituteurs, les professeurs. Mais en ce qui concerne les Juifs, le projet était total. Et d'ailleurs, la loi le rappelle en disant le crime contre le peuple juif, c'est la volonté d'exterminer l'ensemble du peuple juif. On va même tellement loin en faisant presque un mauvais jeu de mots, dans un mauvais sourire, de dire « Ah ben vous savez, n'importe quel petit pogrom, ça n'est pas un crime contre le peuple juif, parce que ça n'est pas le plan d'ensemble. » Là, pour les Juifs, Robinson y insiste beaucoup dans sa réponse à Hannah Arendt, c'est la seule catégorie de gens pour lesquels on a essayé de tuer tout le monde, même à une époque où cela coûtait beaucoup aux Allemands, c'était contraire à leur politique, c'était contraire même à leur tactique, c'était contraire même aux intérêts de guerre en 43, 44, 45. Et donc, il y avait là quelque chose de spécial. Et c'est cela que, d'abord, la loi adoptée en 1950 a voulu traduire. Et c'est cela qui se discute, qui se juge donc avec Eichmann.
Claude Klein le remarque, comme d'ailleurs je le fais dans mon propre ouvrage, que ce crime contre le peuple juif reprend finalement les termes de la Convention de prévention contre le génocide de 1948. Le crime contre l'humanité apparaît comme qualification juridique à Nuremberg et immédiatement après Nuremberg intervient la définition du crime de génocide. Mais il faut aussi rappeler que cette loi de 1950, adoptée par Knesset, n'a jamais été adoptée pour juger les nazis. C'est ça qui est paradoxal, puisque personne ne pouvait imaginer qu'un ancien nazi se retrouverait sur le sol israélien. C'est une loi qui a été faite pour juger les juifs que d'autres juifs accusaient de crimes, notamment ceux qui avaient été capots dans les camps ou qui avaient appartenu au Judenrat ou aux polices juives des ghettos. Et il y a eu effectivement en Israël, au moment où le procès Eichmann débute, une quarantaine, je crois, de procès où des juifs ont été jugés pour avoir coopéré avec les nazis et dans le cadre de cette loi de 1950.
Oui, mais alors, nous y reviendrons d'ailleurs à ce problème de la collaboration des Juifs, ou de certains Juifs avec les nazis, mais pour en rester à cette distinction entre crime contre le peuple juif et crime contre l'humanité, ne peut-on pas dire que c'est précisément le crime contre le juif, contre le peuple juif, qui a conduit les Alliés à adopter cette nouvelle catégorie de crime contre l'humanité, quand on pense qu'à Nuremberg, le seul personnage qui a été condamné à mort exclusivement pour crime contre l'humanité, c'est Julius Streicher, le directeur du Sturmer, qui n'avait pas fait grand-chose, mais qui était une brute antisémite absolument épouvantable. Donc, ne peut-on pas dire du crime contre l'humanité qu'il est précisément une atteinte irréversible à la diversité humaine? Et donc, ne doit-on pas parler, à propos de la Shoah, de crimes contre l'humanité perpétrés contre le peuple juif?
Alors, vous avez d'autant plus raison qu'il y a un élément du procès Eichmann qui est relativement peu connu, c'est l'appel. C'est la décision d'appel de la Cour suprême que vous avez citée tout à l'heure. C'est une petite décision, elle ne fait que 50 pages. Et le président à Granat s'est lancé là dans une distinction en expliquant, car il s'adressait, on le sait, aux juges américains, il était américain lui-même, et il dit exactement ce que vous venez de dire. Attention, certes, nous avons le crime contre le peuple juif, mais ce n'est qu'un sous-chapitre du crime contre l'humanité. Il n'y a pas de véritable distinction. Et à Granat, tenait beaucoup à cet élément, car il ne voulait pas que l'on souligne trop le particularisme. Et il y a d'ailleurs, à travers tout le procès, la distinction que tout le monde connaît bien entre la tension du particularisme juif et la tension de l'universel. Et elle se joue ici, et à Granat le souligne dans cette décision, dont on reparle beaucoup maintenant, alors qu'on ne connaissait que la décision de première instance.
Oui, et puis alors, l'autre raison peut-être pour laquelle cette incrimination c'est inscrite dans le droit positif, c'est qu'on se trouvait dans le cas d'État criminel. Et donc il fallait peut-être aussi faire apparaître, par-delà la loi de l'État, des lois de l'humanité. Et en lisant votre livre, Claude Klein, j'ai vu l'importance qui a été donnée tout au long du procès au thème de l'ordre illégal. Il obéissait aux ordres, mais un juge, et c'est paraît-il une phrase très connue en Israël, a parlé de cet ordre illégal. Alors, qu'en est-il exactement, Claude Klein?
Alors, d'abord, on fait référence au juge Benyamin Halevi, qui était un juge un peu controversé, très brillant, très très brillant, qui était catalogué à droite et qui avait été d'abord le juge dans l'affaire Kastner, dont on n'a peut-être pas le temps de parler maintenant.
Dites un mot quand même.
Oui, l'affaire Kastner, c'est donc Kastner accusé juif hongrois, qui un des membres, non pas du Judenrat, mais du comité d'aide aux juifs, qui était accusé d'avoir été trop proche des nazis, très proche de Eichmann.
Et d'avoir vendu son âme au diable.
Vendu son âme au diable, qui avait été finalement, non pas condamné, mais celui qui l'avait attaqué avait été en fait acquitté. Et le pauvre Kastner, qui a fait appel et qui a gagné son procès en appel, est mort entre-temps parce qu'il a été assassiné. Mais ça, c'était le juge
Halevi. En fait, il voulait négocier avec les nazis
Il a effectivement soutiré le départ de 1600 juifs hongrois, dont lui-même et sa famille, et on lui a reproché donc de s'être vendu pour sauver sa peau et celle de quelques autres. Et d'ailleurs, lors du procès, il n'y a que quand témoigne le responsable d'une des communautés orthodoxes, Pinhas Freudiger, qu'il y a un incident dans la salle et que le juge Landau est obligé de faire évacuer la salle.
Alors, donc, c'est d'abord Halevi est dans cette affaire Kastner. D'ailleurs, on a voulu le récuser, puis finalement, on ne l'a pas récusé. Mais il est ensuite dans un autre procès, qui est un procès militaire. C'est le procès de Kfar Kassem. Alors ça, c'est une affaire épouvantable. On est fin octobre 1956, à quelques heures du déclenchement de la campagne du Sinaï, et le gouvernement israélien a peur que les Arabes en Galilée, dans ce qu'on appelle le triangle, au centre du pays, réagissent au moment de cette attaque. Et donc, ils ordonnent le couvre-feu. Un couvre-feu immédiat. Et ce couvre-feu immédiat, les agriculteurs palestiniens, arabes, n'ont pas le temps d'en être informés lorsqu'ils rentrent le soir la police et l'armée, plutôt l'armée, ouvre le feu et on ramasse, je crois, 46 cadavres. Voilà. Et on juge, donc, on juge l'officier qui a donné l'ordre de tirer. À nouveau, le juge Halevi, qui lance là dans cette formule qui est très connue en Israël, d'une part en disant, écoutez, au-dessus de n'importe quel ordre, il y a un drapeau noir qui peut flotter. Ce drapeau noir indique qu'il ne faut refuser l'ordre. Lorsqu'il est manifestement illégal, en plus il utilise un terme qui vient du Talmud, qu'on n'a jamais utilisé presque jusque-là, Be'alil, ça veut dire très clairement, manifestement, et je dois dire que cette phrase est enseignée dans toutes les écoles, dans toutes les académies militaires israéliennes, et je l'interprète un peu de la manière suivante, elle a une valeur philosophique. Parce que l'officier, le soldat, il a d'abord peur d'une chose, c'est d'être condamné pour ne pas avoir obéi à un ordre. Et ici, on lui dit, vous êtes condamné parce que vous avez obéi à un ordre. Et vous avez cette marge entre de jugement de l'individu où il doit savoir est-ce que j'obéis ou je désobéis. Dans les deux cas, je risque un procès. Et cette marge, je l'appelle la liberté de l'individu. C'est-à-dire que je ne suis pas complètement une marionnette. Je dois décider si je vais exécuter l'ordre ou non. Et donc, Halevi a beau jeu après, dans le procès, de reprendre cette théorie qu'il avait exprimée en 1957, et donc là nous sommes à peine 4 ans après, et de l'utiliser donc dans ce procès.
Alors, voilà la phrase exacte, elle est en effet magnifique. La marque de l'illégalité manifeste est qu'elle se déploie comme un drapeau noir au-dessus de l'ordre, comportant un avertissement qui dit « ceci est interdit ». Mais un mot, Claude Klein, quel a été le dénouement du procès de Kafkassem ? Les soldats ont-ils été condamnés à quelle peine ?
Ils ont été condamnés à des peines, je dois dire, relativement légères. Et en fin de compte, même l'officier a été relâché. Et je crois qu'il y a même, un film palestinien sur cette affaire qui présente tout cela comme étant un peu une caricature. Mais une caricature bizarre, parce que d'un côté, vous avez quand même un procès qui a institué, qui a lancé quand même cette idée. Mais à la fin, comme très souvent, lorsqu'il s'agit de jugements militaires, eh bien, vous savez que la justice militaire est à la justice, que la musique militaire est à la musique, n'est-ce pas ? Et donc, finalement, les officiers, l'officier principal n'a pas subi de peine très très lourde.
Mais alors, du fait de ces trois incriminations, le procès a été à la fois, et vous le montrez l'un et l'autre dans vos livres respectifs, le procès d'Eichmann et le procès de la Shoah. D'où d'ailleurs le nombre très important de témoins, 110 témoins je crois, pour 114 audiences. Que faut-il penser de cette dualité ? Était-elle légitime ? Était-elle inévitable ? Annette Wilhelmka.
Le procès est pensé par Gideon Rosner, et il est pensé comme étant le récit fait par les témoins de ce qu'a été la Shoah. Donc du début de la persécution, c'est-à-dire de 1933, jusqu'à la capitulation allemande. Et effectivement, le procès produit un récit à plusieurs voix de ce qu'elle a été, et avec les travaux de Poliakov, de Recklinger et d'Hilberg, le premier récit historique de la Shoah. Mais en même temps, il faut juger un homme et on ne peut l'incriminer que pour ce qu'il a fait et non pas pour la totalité. Je crois que dans tous les procès de ce type, il y a cette même contradiction entre le fait de vouloir juger à travers un homme tout un régime ou toute une criminalité et le jugement pour les responsabilités propres. On a vu ça en France avec nos trois procès, Barbie, Touvier, Papon. On voit ça aussi avec le seul procès pour le moment qui a été terminé, qui est celui des Khmer Rouges. Donc il y a cette tension. Je crois qu'il faut examiner de deux façons ce procès. D'abord, quel récit et quelle a été l'importance pour la conscience historique des Israéliens et pour la conscience historique de par le monde du procès. Et ensuite, la façon dont Eichmann a été jugé. Et là, il faut se reporter, ce que fait Claude Klein d'ailleurs dans son ouvrage, il faut se reporter au jugement et au jugement de l'appel. Et on s'aperçoit que pour les juges, il n'y a aucune confusion.
Absolument. Lorsqu'on lit le jugement qui est très long, des centaines de pages, on est stupéfait par les 15 premières lignes où le juge, le président Landau, qui tenait beaucoup à faire cette distinction, dit « attention, c'est comme s'il nous dit ceci, je caricature un peu ces termes, attention, là on a vu beaucoup de témoins, on a pleuré, tout le monde a pleuré, le monde entier a pleuré, tout ça, ça n'a pas d'importance pour notre jugement. Tout ça, c'était pour le fond du droit, il fallait l'expliquer, mais ça n'a rien à voir. Et nous, nous sommes des juges professionnels et nous savons qu'il faut d'abord examiner le dossier. Si vous permettez, je voudrais rappeler cet épisode qui traduit plus que tout à fait autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que durant le procès, à un moment... Guy Landau-Hausner, et je crois que c'est Barr qui demande à verser au dossier les 30 volumes du journal de Hans Frank. Hans Frank, c'est le gouverneur général de la Pologne, donc, qui a écrit un journal de 30 volumes. Donc, il décrit tout ce qu'il a fait, et c'est pas beau, évidemment, ce qu'il a fait. Et on demande à Servatius, comme c'est son droit, il a le droit de rejeter cette demande. On dit, est-ce que vous êtes d'accord? Il dit, écoutez, je suis d'accord, mais j'ai une question. Est-ce que le nom d'Eichmann est cité une seule fois dans ces 30 volumes? Et la réponse est non. Et donc, on voit très bien là cette extraordinaire tension, n'est-ce pas? Eichmann, on ne peut pas tout lui faire porter. Et voilà. Mais les juges, et Annette vient de le rappeler, les juges ont fait très bien cette distinction.
Les juges ont fait cette distinction. Mais alors, c'est très intéressant parce que Hannah Arendt elle-même, quand elle critique le procès-spectacle, justement, s'insurge contre cette dualité. Et d'un autre côté, elle est presque, malgré elle, amenée à lui reconnaître certains mérites, notamment quand elle parle d'un témoignage important, celui d'un poète et écrivain, Abba Kovner. Parce que tout d'un coup, celui évoque le nom d'Anton Schmidt, un sergent de l'armée allemande, qui commandait une patrouille en Pologne ramassant les soldats allemands égarés, coupés de leur unité. Celui-ci rencontre donc des membres de la résistance juive, il leur vient en aide, il leur fournit des faux papiers et des camions militaires. Cela dure quelques mois, jusqu'au moment où, en 1942, il est fait prisonnier et exécuté. Et fasciné, Hannah Arendt écrit « Pendant les quelques minutes qu'il fallut à Kovner pour raconter l'aide qui avait été fournie par un sergent allemand, le silence régnait dans la salle du tribunal. C'était une sorte de minute de silence à la mémoire de l'homme dont le nom était Anton Schmidt. Pendant ces deux minutes qui furent comme un flot de lumière projeté soudain dans une obscurité impénétrable et insondable, une seule idée, l'évidence même, s'imposait. Comme tout serait différent aujourd'hui dans cette salle, en Israël, en Allemagne, dans toute l'Europe, peut-être même dans tous les pays du monde, si seulement on avait pu raconter d'autres histoires de ce genre. » Donc il y a des moments de pathos dans ce livre qu'on considère comme très ironique, mais pour en rester une dernière fois à ce livre, ce qui a été beaucoup reproché à Hannah Arendt, il faut en parler, c'est ce qu'elle dit des conseils juifs, du rôle que certains dirigeants juifs ont joué dans la destruction du peuple juif lui-même. Elle dit, c'est sans aucun doute le plus sombre chapitre de toute cette sombre histoire, et elle a cette phrase terrible, toute la vérité est que si le peuple juif avait vraiment été non organisé et dépourvu de direction, le chaos aurait régné, il y aurait eu beaucoup de misère, mais le nombre des victimes n'aurait pas atteint 6 millions. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
C'est juste une phrase, là. Oui. Je pense que c'est la phrase la plus stupide du livre de Hannah Arendt. Parce qu'un groupe, quel qu'il soit, est toujours organisé. Et ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est qu'en réalité, ce qui se cache derrière cela, c'est qu'elle pense que les Juifs ne doivent pas être organisés. Et en réalité, c'est cela le vrai enjeu. Tout groupe est organisé. D'ailleurs, par ailleurs, ce n'est pas vrai en Russie, en Union soviétique. Et voilà.
En Union soviétique, les communautés juives ont été désorganisées par l'immigration et par le régime soviétique, et ça n'a rien empêché. À Babi Yar, par exemple, ou à Berditchev, les juifs ont été assassinés sans qu'il y ait le moindre rôle joué par un quelconque conseil juif. Donc, cette phrase d'Hannah Arendt, en dehors du fait qu'elle est difficilement acceptable sur le plan moral, est historiquement controuvée. Et puis, quand on regarde très attentivement ce qu'ont été ici ou là les communautés juives organisées, eh bien, on s'aperçoit qu'elles ont eu des rôles très divers, qu'elles ont en même temps caché la résistance, que si on considère en France l'Union générale d'Israélites de France, et notamment le rôle qui a été le sien, ça n'a jamais été un conseil juif, et l'Union générale d'Israélites de France n'a aucune responsabilité dans la déportation des Juifs de France. Donc on s'aperçoit que tout ça est rapide, facile. Et d'ailleurs, elle aurait pu citer l'autre partie du témoignage d'Abakovner, qui est un des témoignages les plus poignants du procès, celui où il explique comment le chef de la résistance du ghetto de Vilna, Wittenberg, a été obligé de se rendre aux Allemands parce que les Allemands menaçaient la population de représailles et que pour éviter un bain de sang, il a préféré se rendre et confier son revolver et la direction de la résistance à Abakovner.
Oui, alors pour aller dans votre sens, je voudrais citer ici Shaul Friedlander. Objectivement, dit-il, le Judenrat, le Conseil juif, a probablement été un instrument de la destruction des Juifs d'Europe, mais subjectivement, les acteurs n'ont pas eu conscience de cette fonction, et même s'ils en avaient conscience, certains d'entre eux, voire la plupart, ont essayé de faire de leur mieux dans le cadre de leurs possibilités stratégiques fort limitées afin de retarder la destruction. Et il a, dans son livre sur les années d'extermination, Shaul Friedlander cite cette phrase de Tcherniakov, le président de Judenrat de Varsovie, du ghetto de Varsovie. « Plusieurs me reprochent d'organiser des distractions pour les enfants, d'inaugurer solennellement des jardins, de faire jouer l'orchestre, etc. Je me souviens d'un film, le bateau coule, et le capitaine, pour donner du courage aux passagers, ordonne à l'orchestre de jazz de jouer. » J'ai décidé d'imiter ce capitaine. Il faut ajouter que Tcherniakov se suicide quand il se rend compte qu'il ne peut pas sauver les orphelins. Mais je ne veux pas me faire l'avocat d'Anna Arendt en l'occurrence. Vous avez dit cependant tout à l'heure, Annette Viviorka, que la loi de 1950 était faite pour juger les collaborateurs juifs. Et en Israël, les Judenrat avaient très mauvaise presse et le parti de Menachem Begin était particulièrement déchaîné. C'est d'ailleurs un membre de ce parti, je crois, qui a attaqué et diffamé Kastner. Donc, Hannah Arendt parle des conseils juifs, mais en Israël, c'était même des gens qui négociaient avec les nazis pour leur soustraire des victimes qui étaient accusées de collaboration. Donc, vous voyez, comment expliquer ce climat ?
Il n'est pas question de nier que la question des Judenräte, des conseils juifs, soit une question d'une extrême complexité. Et c'est bien difficile pour nous de juger. Parce que c'est une question qui est aussi liée à l'état de perception de la solution finale. Quand on enferme les Juifs dans le ghetto de Varsovie en 40, personne ne peut penser, ce qui n'a pas encore été décidé, qu'en juillet, deux années après, on les déportera pour les assassiner dans les chambres à gaz de Treblinka. Donc je crois qu'il faut ouvrir cette question. Avec Michel Lafitte, nous venons de publier un livre à l'intérieur du camp de Drancy, oui, où nous examinons aussi loin qu'il est possible ce qu'a été l'administration juive de ce camp. Mais il faut suspendre tout jugement et rassembler l'ensemble des éléments. Et puis dire aussi que parmi les Juifs, il y a eu de franches canailles, des personnes qui ont essayé de profiter de cette situation et qui ont été des véritables collaborateurs, assassinés d'ailleurs dans le ghetto de Varsovie par la résistance.
Oui, j'ajoute d'ailleurs, oui, un mot simplement, c'est qu'en réalité, il y a une contradiction chez Hannah Arendt, parce qu'Hannah Arendt s'est beaucoup plainte qu'on ait trop étendu le champ du procès. Mais s'il avait fallu examiner encore le cas des Judenräte, on serait allé encore beaucoup plus loin. Donc ce n'était pas l'objet de ce procès, mais la question, on ne peut pas la nier, vous avez raison, non. Annette, c'est une question à discuter. D'ailleurs, depuis, il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré que Hannah Arendt s'était pour le moins fourvoyée dans cette
voie. On peut ajouter aussi que tout au long des siècles, les Juifs avaient mis au point une technique spéciale de rapport avec les autorités hostiles, en les soudoyant, en se rendant économiquement indispensables, qu'ils ont voulu faire pareil avec les Allemands, fort justement de cette expérience pluriséculaire, mais les Allemands, et ça, ils s'en sont aperçus à leurs dépens, ne se souciaient même pas de l'utilité du ghetto pour l'économie de guerre. Maintenant, venons-en, pour finir, à la question de la postérité juridique, philosophique, mémorielle du procès Eichmann. Que représente-t-il aujourd'hui, Claude Klein ?
Alors, bon, on a beaucoup parlé de l'importance du procès en Israël. On a peut-être un peu exagéré, comme si avant le procès, on ne parlait jamais de la Shoah et puis tout d'un coup, on la découvre. Je crois que c'est surtout dans l'espace public que l'on a commencé à parler de la Shoah. Mais je crois que ce qui est très, très important, c'est ce qu'on a voulu souligner à ce moment-là, et ça se joue à travers la notion de compétence, c'est l'idée qu'Israël représente le peuple juif, ou en tout cas ceux des juifs qui ne peuvent pas se représenter eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans la Shoah, qu'on a ignoré jusque-là, puisqu'à Nuremberg, il était pratiquement interdit de parler de juifs, on en a parlé, mais pratiquement pas. Et comme Jackson a dit cette phrase extraordinaire, il ne faut pas parler des juifs à Nuremberg, et venir les faire témoigner, parce qu'ils ont toujours tendance à exagérer leur souffrance. Donc, une formule tout à fait extraordinaire. Et donc, là, avec le procès Eichmann, il y a l'irruption du crime contre l'humanité, l'irruption de la notion de compétence universelle.
Oui, qu'est-ce que c'est la compétence universelle ?
La compétence universelle, c'est la possibilité, lorsque un crime de guerre a été commis, pour n'importe quel État, de juger le criminel, même s'il n'a aucun rapport. Et cela a été jugé, par exemple, dans l'affaire Pinochet. Et paradoxalement, fallait-il ou non extrader Pinochet ? Et paradoxalement, ou plutôt de façon intéressante, la Chambre des Lords, maintenant ça s'appelle la Cour suprême en Angleterre, a appuyé sa décision sur le procès Eichmann. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette formule qui fait bondir mes amis israéliens et que je cite aussi. Lorsque vous avez aujourd'hui un dirigeant israélien qui se rend à l'étranger et qui est menacé de poursuites pour certains crimes qu'il aurait commis, c'est à cause du procès Eichmann. C'est parce que ce procès Eichmann a lancé, développé la notion de compétence universelle. Et ça, c'est extrêmement important. Je dirais, il y a Nuremberg, le procès Eichmann et maintenant la Cour pénale internationale. C'est-à-dire trois étapes entre 1946 et 1999, l'année de la signature du traité de Rome.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que la Cour pénale internationale met fin à la compétence universelle, puisque maintenant, disons, ce genre de procès lui revient de droit, non ?
Oui, sauf que la Cour pénale ne juge que si le criminel allégué n'a pas été jugé dans un certain pays. Par exemple, si un pays juge sérieusement, alors il n'y a plus de raison de l'extrader ou de l'amener devant la Cour pénale internationale. Elle est juge par défaut, en quelque sorte.
Alors, c'est un procès qui a une importance considérable. C'est la première fois que l'on considère le génocide des Juifs comme étant une histoire distincte de l'ensemble de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et le génocide comme distinct des autres aspects de la criminalité.
Ce n'est plus un détail.
C'est aussi pour l'apparition de la personne du témoin, ce que j'ai appelé l'avènement du témoin. Donc c'est la victime qui est porteuse d'histoire et qui est la charge d'énoncer l'histoire. Et je pense que la médiatisation qui a été importante, tous les plus grands journalistes, je pense à Mulige qui était lié à Arendt pour les Pays-Bas, à Joseph Kessel pour la France et bien d'autres, ont fait de ce procès, et la télévision bien évidemment, ce qu'on pourrait appeler un des tout premiers Global Media Event, un événement global planétaire. Et quand on lit des mémoires, par exemple le making of d'Art Spiegelman de Mauss, il explique comment lui a pris conscience de ce qu'était l'histoire de ses parents en regardant à la télévision le procès Eichmann alors qu'il avait 13 ans. Donc ces histoires, qui étaient des histoires privées, sont devenues des histoires inscrites dans l'espace public.
Il y a quand même un détail sur lequel je voudrais qu'on s'appesantisse quelques secondes, parce qu'il est très émouvant. En 1961, je l'ai appris en vous lisant, Claude Klein, la télévision n'existe pas encore en Israël. Et j'ai appris aussi, ce que je trouve extraordinairement émouvant, que Ben-Gourion était personnellement hostile à son introduction Donc il y a eu la télévision pour les autres, mais pas en Israël. Et c'est accroché à leur poste de radio que les Israéliens ont suivi le procès. Alors dites-nous simplement, pourquoi Ben-Gourion était-il hostile à l'introduction de la télévision en Israël ?
Il pensait, je dirais très simplement, que ça corrompt la société. Et il s'y est opposé pendant très très longtemps, et la télévision n'a commencé à fonctionner en Israël qu'en 1966-67, après son départ, elle a commencé très péniblement.
Ah oui, donc tant qu'il était au pouvoir, c'était juste pas possible.
Absolument. Et parce que les Israéliens commençaient à capter les télévisions pays qui étaient autour.
Oui.
Donc on ne pouvait plus protéger la société israélienne de la télévision.
Et je crois qu'il avait raison.
En tout cas, c'est tout à fait passionnant. Et donc, c'est par la radio et les journaux que les Israéliens suivaient au jour le jour
et le procès Eichmann. Et par une retransmission de ce qui était télévisé dans ce qu'on appelait le Hall Ratisbonne, c'est-à-dire dans une salle...
C'était pour le
public israélien qui ne trouvait pas place dans la salle. Mais la télévision a été aussi très importante pour Hannah Arendt, d'ailleurs, parce qu'elle a peu assisté au procès. Donc je pense qu'une partie de ce qu'elle raconte, elle l'a vue. Et ça a été aussi très important pour les journalistes qui allaient observer la façon dont se comportait Eichmann dans les postes de télévision, où on voyait mieux les détails sur la figure, sur les mains, que dans la salle.
Oui, Hannah Arendt a peu assisté au procès, mais il faut dire quand même qu'elle a étudié et lu très attentivement documentation, et notamment l'interrogatoire de Eichmann. En tout cas, merci beaucoup, Claude Klein et Annette Wiewiórka, pour cette discussion. Je renvoie à vos deux livres, donc Claude Klein, Le cas Eichmann, vu de Jérusalem. Le livre paraît aux éditions Gallimard, et Annette Wiewiórka, une réédition complétée de votre ouvrage sur le procès Eichmann, Eichmann de la traque au procès, publié chez André Versailles.
Voilà, en 2011.
En 2011, voilà. Je voudrais aussi signaler l'existence du catalogue d'une exposition qui s'est tenue au mémorial de la Shoah, Jugé Eichmann, Jérusalem 1961, avec une préface d'Henri Rousseau. Et cette exposition sera donnée au mémorial d'Oradour du 18 juin 2012 au 25 avril 2013. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site franceculture.fr où vous pouvez télécharger l'émission pendant une semaine et l'écouter pendant 500 jours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Éric Villenfin. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.